Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. La lecture qui va suivre est composée d'extraits du dernier roman de Valentine Gobi qui s'intitule « L'île haute ». Il a été publié chez Actes Sud en août 2022. Enseignante en collège, puis maître de conférences à Sciences Po, l'écrivaine a déjà publié une vingtaine de romans adultes ainsi que des livres pour enfants. Même si les thèmes sont chaque fois différents, elle s'attache le plus souvent à montrer l'incroyable faculté de résistance des hommes, femmes ou enfants face aux pires épreuves de la vie, comme dans son roman « Kinderzimmer », publié en 2013 chez Actes Sud. Dans l'île haute, nous faisons connaissance avec Vadim, un petit Parisien accueilli dans une famille d'un village de Savoie. Nous sommes en 1943, et le lecteur comprend vite qu'il n'est pas envoyé là seulement pour soigner son asthme, puisqu'il doit changer d'identité pour devenir Vincent. L'enfant est une âme sensible, et la fascination qu'il éprouve pour cette montagne qu'il découvre, saison après saison, va l'aider à supporter la séparation avec sa mère et l'inquiétude sur le sort de son père. Tout l'intéresse. L'immensité des paysages, les sommets impressionnants, la vie quotidienne des habitants, si bienveillants. Et sous sa main, à travers ses crayons, l'environnement se transforme en couleurs. Au début de la lecture, nous le découvrons à peine descendu du train, alors qu'il rejoint le chalet à pied dans la neige en compagnie de son guide.
Il avance en somnambule avec ses cuisses de glace, ses genoux de glace, ses mollets de glace, ses pieds de glace. Il se figure les parois de neige se refermer derrière eux. Il lutte contre la main de glace qui ferme ses paupières, accroche son regard aux coulées grises pendues au ciel, rochers lointains, forêts peut-être. Ou bien ce sont des rêves. Il fixe le halo jaune de la lampe sur la neige. Par-delà les murailles, il aperçoit, juste quand il les dépasse, des maisons écrasées de neige, des raies de lumière derrière des fenêtres calfeutrées, puis rien que la tranchée et le rond de la lampe. Il trébuche. L'homme se retourne. 2 kilomètres. On y est. Tiens, mange. Et balance tes bras comme ça, d'avant en arrière, pour faire circuler le sang. Le garçon mord dans le pain noir et le laisse fondre sur sa langue. Mâcher, c'est trop d'effort. Il marche sur la route des confins, en pente inexorable. Il n'en sait pas le nom, mais ne s'en étonnerait pas s'il savait ce que confin veut dire. Le bout du monde ne peut pas être loin. Une maison, un virage. Le halo de la lampe, obstinément. Il quitte la tranchée, monte à l'oblique de la route maintenant, une trace dans la neige partiellement recouverte et leurs pieds s'enfoncent encore. En haut, un hameau, des maisons bien serrées au volume plus sombre que la nuit. Alors, l'homme s'arrête, éteint sa lampe, secoue sa pèlerine, frappe ses chaussures contre une marche et pousse une porte. D'un coup, la lumière enveloppe le garçon, une odeur forte de feu, de soupe, d'animal. Au bout de la main qui le retient, il y a une femme. Tout ce qui suit se produit dans un songe. La femme dit « tape tes chaussures », il le fait, puis il vient. « Tu es gelé », il vient, avec son manteau, ses chaussures, se laisse conduire et y asseoir auprès d'un poêle. Elle ne lui demande rien, ni l'homme, ni un autre homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il boite, ni un autre plus vieux qui fume la pipe. Il l'observe. Il a froid. Ils disent, ou ça se voit, il est épuisé, c'est normal, il ira mieux demain. Donne-lui à boire, donne-lui à manger. La femme essuie énergiquement ses cheveux dans un chiffon. Lui se perd dans les rainures du parquet. Les chaussures du garçon dégouttent sur le plancher. De petites flaques se forment sous son manteau. Ses lacets dégèlent. La chaleur brûle ses mains, ses pieds, son visage, vrille ses tempes. La femme déboutonne son manteau, l'enlève, s'agenouille, défait ses lacets, ôte doucement ses chaussures, ses chaussettes trempées, frotte ses pieds entre ses mains. « Tu as faim ?»« Non, merci. »« Prends quand même. » Elle lui tend une cuillère pleine d'une pâte ambrée. Il la fourre dans sa bouche. Le miel explose sous ses papilles. C'est trop. Il grimace, écœuré. Elle prépare une tisane, lui demande de boire. Il boit. Ça a un goût d'herbe et de médicaments. Il n'en peut plus. Il veut seulement dormir. Alors il boit vite. Il tangue derrière la femme dans l'escalier, entre à l'aveugle dans une petite chambre où tremble une ampoule sous un abat-jour en dentelle. La femme lui tend une chemise propre. « J'attends derrière la porte. Tu me donneras tes vêtements pour que je les fasse sécher. » Il se déshabille avec des gestes ivres, lutte pour ne pas s'écrouler. Il frissonne au contact de la chemise rêche, ramasse en boule ses vêtements, l'étend par la porte ouverte. « Tu feras attention à la brique, hein ?» Il ne comprend pas. Il veut dormir. « Oui. Bonne nuit, Vincent. »« Bonne nuit, madame. »« Moi, c'est Blanche. »« Blanche, » il répète en écho. Il s'engouffre sous les couvertures, heurte de ses orteils une masse chaude, soulève le drap, la brique. Il la repousse au fond du lit, balance l'oreiller de plumes. Jamais de plumes pour l'asthmatique. Ferme enfin les yeux. Il entrevoit les visages de sa mère, de Jean, de son père, tels que les emprisonne le médaillon de cuir resté dans sa valise, en bas, étiqueté au nom de Vincent Dorcel. Il est Vincent maintenant. La neige recouvre les visages.
C'est la première fois qu'il voit une montagne. Elle a jailli à son insu, le temps d'aller pisser. Il n'est plus qu'un garçon qui regarde une montagne. Il voit, dressée au milieu d'une profonde échancrure, et gravée sur le ciel pâle, une forme blanche et noire, vaguement triangulaire, asymétrique, avec un sommet raboté de guingois, comme si toute la roche allait s'affaisser d'un côté, entraînée par un poids invisible. Le soleil est encore caché. On devine qu'il monte derrière le massif tout proche. Un halo d'or enveloppe la montagne. Vincent a vu des gravures de montagne dans les manuels scolaires. Peut-être quelques photos bichromes de cascades ou de glaciers. Elles n'ont pas laissé d'empreinte dans sa mémoire. Paysage de papier. C'est une chance. La montagne est une surprise totale. Et quand bien même un vague cliché serait revenu à Vincent, un dessin, il n'aurait pu, c'est certain, le préparer à la vision de cette masse-là, énorme, émoussée, biscornue, si peu semblable aux schémas enseignés. Et puis, il se souvient d'une montagne. Une montagne peinte dans un livre, que le vieux voisin a tiré de sa bibliothèque un jour où il lui faisait la lecture, bouté hors de l'appartement par les odeurs de colle. À la fin de leur séance, le garçon avait marqué la page du roman d'un de ses dessins à la mine de plomb. Le voisin avait demandé à voir. Il avait scruté les formes ovoïdes dispersées sur la feuille. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être des matières prises dans une flaque, ou bien des moisissures à la surface d'un mur, ou un reste de soupe dans l'assiette de son père. Vadim ne savait plus. Mais le voisin s'est levé, a extrait un gros volume d'une étagère et l'a ouvert devant lui. Des silhouettes indécises flottaient sur le papier. Des cercles flous et de couleurs sur fond noir. Des sortes d'insectes à cils et à pattes sur toile crème. Des créatures animales miniatures dans un bain bleu. Des sphères et figures serpentines assemblées en galaxies qui rappelaient ses dessins à lui. Il a tourné une autre page, il a vu une montagne, ou plutôt le titre l'affirmait. Un monticule bleu profond cerné d'un arbre rouge et d'un arbre jaune avec des chevaux au premier plan. Une montagne modeste, plus petite que les arbres, un triangle presque isocèle. Il n'avait jamais vu de montagne et il a refermé sur sa paume la couverture du livre pour lire le nom écrit en lettres majuscules. Kandinsky. Le lendemain, le vieil homme a offert à Vadim une boîte de crayons Carandash. La couleur, petit, pour dessiner, c'est mieux. Et une rame de papier épais, au grain fin, doux au toucher, que Vadim a emporté ici intacte. Mais la montagne de Kandinsky vole en éclats, pareille aux gravures de Manuel, face à celle qui s'impose à l'instant à Vincent. Appuyé au manche de la pelle, l'homme d'hier fixe le garçon qui fixe la montagne. On dirait qu'il a vu une fée. À le voir, bras ballants, bouche béante, yeux écarquillés, il sait que son anxiété de la veille a cédé à une sorte d'enchantement. « Tu vas congeler !» Le garçon sursaute. « Ça, dit l'homme, c'est les aiguilles rouges. » Vincent ne voit ni le rouge, ni les aiguilles. Mais il accepte ce nom étrange, injustifié, comme il reçoit l'irruption de la montagne dans son existence. Ici, de toute façon, tout sera neuf, inattendu. « On est venu de là-bas hier, » dit l'homme en tendant le manche de la pelle. « Le col démonté est dans le creux, dans un ancien verrou glaciaire. » Il dit qu'à droite, caché derrière la forêt, c'est le col de Bérard où le soleil se couche. La petite encoche blanche sur la gauche, c'est le Mont Blanc. Vincent est stupéfait. Il a traversé tout cet espace sans rien voir. Même le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe, il l'a appris en classe. Et de l'autre côté, dit l'homme, dans le dos de Vincent, c'est la Suisse. Vincent pivote, aperçoit une frange de blanc au-dessus d'un bouquet d'arbres. L'homme dit « Tu verras mieux d'en bas, tu ne peux pas rater les dents de Morcle. » Vers la Suisse, pas de col, mais des gorges profondes. Et puis des barbelés, bien sûr. Vincent récapitule. D'un côté, donc, 12 mètres de neige au col et un tunnel sous l'avalanche. De l'autre, une frontière fermée. Vincent voit seulement des pentes couvertes de neige et d'arbres et des lignes mauves contre le ciel sciant. Aucune démarcation dans le paysage n'indique quel rocher est suisse, quel rocher est français. Il croyait que ça se verrait, une frontière. Il se souvient des gros traits rouges tracés sur la carte, dépliée par sa mère, avec des petites croix en dessous, comme des chevaux de frise. Elle promenait son doigt par-dessus l'épaisse cicatrice. « C'est la Suisse », elle disait, avec un sourire mystérieux. « En Suisse, chuchote l'homme, il y a du tabac. » Vincent se retourne vers les aiguilles rouges. Elle ressemble à un poulpe, cette montagne, avec ses versants renflés. Un jour, sûrement, d'autres montagnes altéreront cette expérience originelle, plus pathétique, plus conforme au récit des grands alpinistes. Mais aucune ne pourra effacer l'image première, si nette, de ce jour de janvier. Elle a la force des initiations. Cette vue-là des aiguilles rouges se fixe en lui maintenant et pour toujours, sédimente. Et chaque nouveau regard l'enfoncera plus loin dans sa rétine. Pour Vincent, désormais, cette montagne est la montagne. Les suivantes n'en seront que des variations.
Vincent se retourne vers la petite fille qui le fixe gravement. C'est difficile de lui donner un âge. Elle n'arrive pas au menton de Vincent toute menue sous la pèlerine. Ses doigts en serrent de grosses pelotes de laine. Ses yeux noirs s'enfoncent dans les orbites, ses pommettes saillent. Elle a des lèvres fines, un nez pointu. Une tête d'oiseau dépareillée du corps. Tu es le nouveau ? Je t'ai vu parler avec le maître hier. Oui. Comment tu t'appelles ? Vincent. Moi, c'est Moinette. Vincent se demande si c'est le féminin de moineau. Elle semble lire dans ses pensées. En fait, je m'appelle Annette. Quand j'étais petite, on me demandait mon prénom et je répondais « Moi, Annette », elle dit en pointant l'index sur sa poitrine. C'est devenu Moinette. Vincent, c'est ton vrai nom ? Le cœur du garçon s'emballe. Évidemment, il répond, faussement assuré. La petite fille fronce les sourcils. Vraiment ? Ses pupilles transpercent son front, là où Blanche a cloué le nouveau nom à force de le répéter. Puisque je te le dis, la petite fille soupire. Jamais entendu. Tu as quel âge ? 12 ans. Et toi ? 10. Bon, je vais donner les pelotes à Blanche. Vincent alors la suit dans la maison. Blanche débarrasse Moinette. C'est la laine de leur mouton, la mère de Moinette, la file pour eux en échange de quelques pelotes. Elle est moins douce que le lin, mais elle tient plus chaud. Tiens, touche. Depuis le rationnement, la mère de Moinette a ressorti le rouet de sa grand-mère. Tu lui montreras le rouet, Moinette. Est-ce qu'il va au caté aujourd'hui ? Bien sûr qu'il y va. Vincent essaie de suivre. Le catéchisme ? Mon père dit que la cousse arrive, à midi, au plus tard. Blanche touille la soupe. Toi, tu cherches une excuse pour être dispensé. Je comptais sur toi pour présenter Vincent.
Il aura son quota dimanche, marmonne Albert depuis l'atelier.
Si tu dis à ma mère que je reste avec lui, alors...
Oh, c'est l'abbé Payot qui ne va pas être content.
Tu es sûr, Moinette, pour la cousse?
Sûr.
Je parlerai à ta mère.
Mais alors, tu montres tout à Vincent.
Moinette emmène Vincent chez elle. Il voit sa mère, ses deux sœurs, une va se marier, et l'autre est un peu femme de chambre à l'hôtel du Mont-Blanc. Son grand frère est parti déblayer la voie de chemin de fer avec son père. Elle dit « J'en ai six autres. Enfin, une est morte, un est menuisier à Sallanches, un à l'usine à Chède, deux en pension au collège de Bonneville. Elle recompte sur ses doigts « Ah, et une est au couvent. » 10. C'est pour ça qu'on me prête. Toi aussi, tu es prêté ? Il ne comprend pas. Tu es prêté à Blanche, c'est ça ?
Comment ça, prêté ?
Ben, elle n'a pas d'enfant. Vincent secoue la tête.
Alors, pourquoi tu es venu ?
Je suis asthmatique. C'est au tour de la fille de ne pas comprendre. Je respire mal, la montagne est un médicament.
Ah, et toi, tu es prêté à qui ?
À ma tante, au Nantes, le plus souvent. Ils n'ont pas d'enfants. Et à la veuve Burnet, au Mollard. En fait, toi, on te prête à Blanche et Albert, c'est ça ?
J'ai des parents.
On te prête l'air de Valorcine.
Bon, on peut dire ça.
L'explication convient à Moinette. Vincent entend des cloches, un bêlement. Ici aussi, il y a une étable, des vaches, une chèvre, des poules, même des lapins. Une cuisine avec une marmite, un poêle à bois, la maison est une réplique de celle de Blanche. Moinette soulève la marmite, la pâtée des bêtes. Il ne fait rien, elle lui montre seulement, comme l'a demandé Blanche. Elle porte l'énorme marmite toute seule. Nourrit les poules et les lapins dans l'écurie.
L'écurie, dit Moinette, pas l'étable.
Vincent croyait que l'écurie c'était pour les chevaux, mais il n'y a pas de cheval. Il suit la fille partout, la voit retourner son matelas, pousser le foin par la trappe au-dessus des vaches, étrier le poil roux qui frémit sous la brosse, remplir des seaux à la fontaine d'or et les verser aux vaches et dans la rigole à purin. Moinette le fixe en biais quelquefois, tandis qu'elle exécute sans commentaire une série de gestes maîtrisés, intériorisés, comme les mouvements d'une chorégraphie ancienne, tellement ancrée dans le corps qu'on n'y songe plus. Elle s'étonne de la naïveté du garçon. Ne s'en amuse pas encore. Il est soulagé qu'elle lui tende la hotte de son frère pour l'aider à sortir le fumier, de pouvoir être utile à quelque chose. Moinette s'arrête sans cesse pour attendre Vincent. Elle finit par se moquer. « T'as jamais vu un arbre ? T'as jamais vu la neige ?» Quand il se penche pour ramasser les hottes, leur front se frôle. Alors Moinette aperçoit sous la peau diaphane du garçon des deltas de veines bleutées. Elle lâche sa hotte, tend ses doigts vers le visage de Vincent. Il ne bouge pas, paralysé. Les doigts froids pianotent sur sa joue, légers, suivent le parcours des veines, descendent sur la gorge où bat un renflement de peau translucide. Il ne dit pas « t'as jamais vu de veine, t'as jamais vu de peau, t'as jamais vu de gorge ». Les yeux fixés sur ses chaussures, il se laisse apprivoiser. Le garçon vampire, c'est ainsi qu'on désigne l'asthmatique à l'école Baudelaire. Ce n'est pas méchant. Il est habitué, même si personne ne l'a touché avant. Il ne sait pas combien de temps ça dure. Moinette approche ses doigts des épaisses boucles noires, n'ose pas s'y enfoncer. Elle retire brusquement sa main, scrute le ciel, semble y lire quelque chose. On rentre. Viennent les premières rafales. Ils marchent dans leur propre empreinte, dont les contours s'effondrent, balayés par le grésil. Très vite, la neige tourbillonne en aiguilles et crible leur visage. Une gaze descend sur la vallée qui gomme les contrastes. Vincent tourne lentement sur lui-même dans le nuancier de gris. Il ne reconnaît plus le paysage aux allures de photos anciennes. Sa montagne a disparu, avalée par la brume. Ils font une halte au bûcher, une provision de bois. Leurs doigts anesthésiés s'échardent sans douleur. À l'intérieur, Moinette poursuit sa ronde et Vincent la talonne. Elle garnit le poêle, sale, et retourne les fromages à la cave, où, un index posé sur la bouche, elle plonge soudain le doigt dans la bassine de crème et le tend à Vincent. « C'est une fourmi », se dit le garçon en passant la langue sur ses gencives. Il pense à la fable de La Fontaine. Il a bien aperçu dans la chambre de Moinette une maison de poupées, une dinette, des aiguilles et un début de tricot sur son chevet. « Ma chaussette de la semaine », elle a précisé aussitôt. « Mon père les vend à une boutique de Chamonix. » Mais Moinette ne joue pas. Son corps en mouvement, constamment confisqué par les tâches qu'on lui assigne. Il se demande si c'est parce qu'elle a promis à Blanche de lui montrer tout, ou bien si c'est une journée ordinaire. Elle veut lui montrer quelque chose avant de s'en aller. Il faut qu'il se rechausse, qu'il sorte. Il n'en peut plus, lui. Être trempé semble parfaitement égal à Moinette. Debout dans la bourrasque, elle fait de grosses boules de neige, les lisses de la paume en sphère parfaite. Elle dit « Vas-y, toi aussi fais des malottes !» Et il l'imite, se répétant « Malotte, malotte pour ne pas flancher !» Les flocons durs entrent dans son col, fouettent sa peau, il n'ose pas désobéir. « Encore une !» elle dit. Elle plonge une à une les boules dans le bassin, les égoutte, puis les aligne à l'abri sous le toit entre le mur et la gangue de neige. Demain, ça fera des boules de glace transparentes. Des boules de cristal, il pense, comme celles des voyantes où on peut lire l'avenir, l'avenir si loin, si trouble. À quoi ça sert, il demande ? À rien. Ces boules de neige, c'est le premier geste de Moinette qui n'est pas purement utile. C'est juste pour moi, alors ? Moinette hausse les épaules, puis s'éloigne, la capuche rabattue sur la tête, absorbée par la couche.
C'est sa première escapade sans Moinette. Et ce jour où il dépose le fumier dans un champ tout en haut du hameau, un champ qu'il n'avait pas foulé encore, Vincent rencontre Martin. Il a entendu parler de Martin. Il tresse les plus belles hottes, il a des yeux au bout des doigts. Il est sur le retour quand l'aveugle le hèle, assis sur un banc devant sa maison. « C'est laquelle ta montagne préférée ?» l'interroge Martin. « Les aiguilles rouges. Pourquoi ? C'est la première que j'ai vue. Moi, j'aime les posettes. Tu sais à quoi ça ressemble ? C'est de là que monte le soleil. Tu vois le soleil ? Il sent sa chaleur. L'hiver, le soleil n'est perceptible que derrière une vitre. Il ne reconnaît la nuit qu'à la densité du silence et au ululement de la chouette. Le jour, au chant du pic noir, du casse-noix, des mésanges. À partir de mars, il dit « Le soleil s'élève à la verticale des massifs, une course en ellipse au-delà des aiguilles rouges, et il ne disparaît qu'au soir. » Vincent pense aux rayons qui atteignent la classe depuis quelques jours, tiédissent son bras droit juste avant la récré. Mars arrive. C'est au-dessus des posettes, là, à gauche, que le jour se lève, dit Martin, en tendant le bras. Au beau jour, le soleil chauffe. C'est facile de repérer l'aube, midi, la nuit. Il coule en lames tièdes sur sa joue gauche, son épaule gauche, son flanc gauche. Atteint son front, toute sa figure, sa poitrine, ses côtes. Ce point-là, au centre du squelette. On l'appelle bien plexus solaire. Et c'est l'après-midi. Mais l'hiver, la lumière est froide. La course du soleil n'est qu'un souvenir. Il préfère les posettes quand même. Martin ne verra jamais la montagne, pense Vincent. Il est dans le blanc définitif. Il en sait moins que le garçon sur le paysage auquel il fait pourtant face depuis sa naissance. Il ignore la ligne des cimes, des crêtes dessinées contre le ciel, tous les visages de la neige. À part la chaleur du soleil, il ne sait rien du printemps. À quoi tu penses ? À commencer quand la neige fond. Mais toi, tu ne vois même pas la neige. Martin fourrage les poils du chien. En ce moment, les aiguilles rouges sont couvertes de neige avec des pans de forêt qui font des traînées sombres. Vues d'ici, elles ont une base asymétrique et un sommet raboté penché vers le col, comme s'il s'effondrait. Vincent est scié. Les posettes sont tapissées de sapins aux feuilles persistantes et de mélèzes nues. Les aiguilles ressemblent à des doigts, ou plutôt à des moignons de pierre. Quand il fait beau, on voit miroiter les glaciers au fond, derrière les aiguilles rouges. Le soleil se couche dans le vallon de Bérard en dégradé de rose par beau temps. Sinon, un halo mat grise dans le col au crépuscule. La neige est partout. Le blanc domine, quels que soient les blancs. Martin rigole. J'ai tout appris par cœur, comme une leçon. Vincent n'en revient pas. J'écoute ce que disent ma mère, mon père, ce que me répètent les gens depuis l'enfance, les descriptions des romans, des journaux. J'ai une énorme mémoire des mots. Mais j'ai mes ruses pour voir. Il connaît les formes à petite échelle. Il sait ce qu'est un triangle, cette pierre par exemple, qu'il sort de sa poche. Une diagonale, une sphère. Il a touché des milliers d'objets figurant le monde en modèle réduit. Il les dilate dans sa tête. Ça lui donne une idée du décor. Et puis, ses pieds savent ce qu'est un dénivelé. Il en a grimpé des pentes ici avec son chien. Il connaît la nature des sols et des cailloux. Les altitudes sont difficiles à se représenter. Alors, il compare. La hauteur du Mont Blanc, par exemple, correspond au nombre de pas d'un bout à l'autre de la vallée. Surtout, Martin collectionne les bruits, les odeurs, les goûts, les sensations. Il en a tout un catalogue. Il les agrège, en déduit le paysage. L'hiver, à cause de la neige, du silence, de l'immobilité de tout, c'est plus compliqué. À Paris, se dit Vincent, ce serait différent. Tu comprends ? Je crois. Le paysage est une enquête. Alors, même sans les couleurs, tu connais le printemps ?
Oui.
Et c'est comment ? Tu ne veux pas une leçon quand même ? Pas toi, qui ne fais pas 5 pas sans lever la tête. Observe, imagine. Après, ce sera trop tard. Tu seras prisonnier de tes yeux.
Thank you.
Avant de s'endormir, il feuillette l'almanach de 1942 trouvé dans l'armoire. Le messager boiteux. Quel nom bizarre. Ses yeux ne s'attardent pas sur la chronologie de l'année 1941, les cartes et les noms des batailles. Il préfère décrypter les commentaires griffonnés plus loin dans les pages du calendrier par une main anonyme, soins aux bêtes, travaux de printemps, culture, montée des vaches à l'alpage, météo, travail du bois. Ainsi, des mondes parallèles coexistent et s'ignorent. Des fronts de guerre s'ouvrent en Europe tandis qu'à Valorcine, une certaine charmante est menée au taureau et qu'au même moment à Paris, Vincent s'en rappelle. Sa mère reçoit pour la première fois une lettre de son mari en allée depuis 2 mois. Le 18 juillet, les foins commencent à Valorcine. C'est marqué là, en lettres serrées. Et le même jour, juste après qu'a eu lieu la rafle du Veldiv, Vincent et sa mère emménagent chez les Dorcelles. Août, tant des moissons ici, sécheresse, tant de vacances à Paris. Vincent joue sûrement au lac des Batignolles, interdit aux Juifs, et la guerre continue et s'étend sur la carte du monde. Le 9 décembre, le bois abattu du côté de la villa est traîné au bûcher. Vincent se concentre. Il faisait quoi le 9 décembre ? Il n'est pas si loin. La piqûre d'adrénaline avait eu lieu. Il devait savoir, déjà, qu'il allait s'en aller. Quand ? Comment et où exactement, il n'aurait pu le dire, mais la décision était prise. Par curiosité, il cherche la page du jour, 22 janvier, il y a pile un an, et il lit Saint-Vincent, aujourd'hui même. Il n'en revient pas. Personne n'y a fait allusion, peut-être parce qu'ils savent qu'il n'est pas un vrai Vincent. Mais il glisse l'almanach dans sa poche. À défaut d'être Vincent, il prouvera à Moinette que Vincent est un vrai prénom. Et comme il a été Vincent tout le jour, qu'il a tenu, il s'autorise à être un peu Vadim. Il se relève, ouvre sa valise, saisit le médaillon de cuir, l'embrasse, le repose, le reprend, l'emporte avec lui dans le lit. Suture provisoirement les mondes séparés.
Ici s'achève notre lecture. À vous de la poursuivre et d'accompagner Vincent Vadim dans sa découverte émerveillée de la montagne au printemps et en été. Il ne sait rien du destin qui lui est réservé, mais conservera cet almanach comme la mémoire de ses 3 saisons à Valorcine. Un fétiche de son passage d'une enfance bousculée à l'adolescence et sa véritable identité. Les textes ont été lus par Dominique et Marie-Paul. Claude Michel a assuré l'enregistrement et le montage. La musique est extraite des 4 saisons de Vivaldi. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.